Chapitre 4e, Martin Numa, cambrioleur. Pour employer une expression triviale, sans aucun doute mais très caractéristique et dont, avec votre permission, l'emploi ici relate bien ma pensée, je dirais que les paroles qui arrivaient à l'oreille de Martin Numa ne tombaient pas dans l'oreille d'un sourd. Il semblait même que les paroles rencontraient dans cette oreille ouverte une intensité, une résonance extrême, comme si vraiment dans leur conque se trouvait un microphone perfectionné. Martin Numa avait entendu le cri de victoire de son ami le marinier quand il fit rouler sur la berge son adversaire évanoui et abominablement maltraité au cours de la bataille. Ces paroles ne devaient pas être perdues pour lui. « Mon cher Prosper, dit-il alors à son second, nous ne devons pas laisser cela sans essayer de le tirer au clair. Non, chef, c'est aussi votre avis ? Absolument. Vous savez, mon ami, que je n'admets guère l'intervention du hasard dans nos petites affaires. Cependant, quand des faits se présentent comme celui-ci avec son cortège de coïncidences inattendues, je crois que nous aurions tort de ne pas essayer d'en tirer parti. Je le crois aussi. Bien. Donc, pas d'hésitation possible à avoir. Il faut, dussions-nous trouver une désillusion, ne pas apprendre grand-chose en réalité, tâcher de savoir ce que veut dire cela, le coup de Suresnes. Parfaitement. Peut-être au fond ne s'agit-il que d'une simple affaire entre mariniers, une querelle après boire, un mauvais coup donné, peu importe, tâchons de savoir. Martin Numa ajouta, « Seulement il faut être ici, plus que partout ailleurs, d'une extrême prudence. Ici, tout le monde ignore qui je suis en réalité. On me prend tout bonnement pour un peintre comme il y en a tant, attiré par la beauté du site, par le charme de la scène, la splendeur de la forêt. Personne jusqu'ici n'a pu découvrir ma réelle personnalité. » Je suis très heureux de cela, car j'ai ainsi toute la possibilité de me reposer, de me rétablir comme il est nécessaire. Vous en avez grand besoin. J'en conviens. Donc il faut que ce soir, et très rapidement, et à l'insu de tout le monde, nous redevenions détectives, sans cependant commettre cette maladresse de brûler notre précieux incognito. Cela, en somme, n'est pas très difficile. Je l'espère. Voici ce que nous allons faire. Notre hôte nous croit en ce moment dans nos chambres, au lit certainement et sur le point de dormir. C'est probable. Lui, qui a l'habitude de trouver son sommeil de très bonne heure, comme tous ceux qui habitent la campagne, doit déjà dormir profondément. J'ai eu le soin, tout en ayant l'air de m'intéresser fort à la bataille tout à l'heure, de l'entraîner avec nous, de lui faire prolonger la veille beaucoup plus tard que d'habitude. Je pensais en effet avoir besoin ensuite, si je puis ainsi dire, de son profond sommeil. Voici pourquoi. Nous allons descendre dans la cour de la villa. Nous allons faire en quelque sorte les cambrioleurs et sortant la petite voiture, nous irons ramasser le vaincu sur la berge. Pour le transporter sans doute à Fontainebleau, à la gendarmerie. Prosper, mon ami, je suis heureux de voir que vous comprenez aisément ma pensée. C'est cela. Ce gaillard me semble avoir quelque chose de pas clair dans son passé et il mérite bien un interrogatoire. Je le crois aussi. Donc, descendons sans bruit, passons comme des ombres, agissons tels des fantômes. Quand Martin Numa se trouvait, comme il le disait, en vacances, qu'il se reposait, il lui plaisait de parler ainsi, de se servir en riant des clichés de romancier. C'était chez lui signe de contentement. Généralement, il parlait peu, et quand il préparait une affaire, qu'il marchait vers l'exécution d'un plan, il n'ouvrait la bouche que pour donner un ordre bref. Alors, rien au monde, non seulement, eut le pouvoir de le faire bavarder, mais même de détendre son visage, froid, impassible, son masque de marbre. Ici donc, cette aventure lui semblait une petite partie de plaisir, venant augmenter le charme de sa villégiature. Martin Numa et Prosper, trouvant cela très amusant ce soir dans cette maison, dans ces conditions, quittèrent donc la chambre du roi des détectives et à pas de loup, sur la pointe des pieds, s'ingéniant à ne pas faire craquer le plancher et les marches de l'escalier, ils descendirent jusqu'à la porte d'entrée. Avec son habileté extrême, Martin Numa ouvrit cette porte que son hôte, tout à l'heure en rentrant, avait prudemment fermée de deux tours de grosses clés. Alors ils descendirent dans la cour. Le chien de garde les connaissait, il n'aboya pas. Puis Martin Numa et Prosper tirèrent du garage la voiture qu'ils poussèrent sur la route sans faire marcher le moteur. Ils la poussèrent ainsi silencieusement pendant un assez long bout de chemin. Puis, quand ils s'aperçurent que le bruit du moteur n'éveillerait pas les hôtes de la villa, ils prirent place dans la petite auto. Prosper, sur l'ordre de son chef, sautait sur le siège du conducteur, prenait en main le volant. Martin Dumas s'asseyait auprès de lui. Ils arrivèrent bientôt au rebord du talus au haut de la verge d'où le vaincu tout à l'heure avait roulé. Ils descendirent jusqu'à cet homme qui, sans aucun souci, sans la moindre conscience de la formidable raclée qu'il avait reçue, dormait, étendu sur le dos, les bras en croix, ronflant, plongé dans ce merveilleux sommeil des ivrognes, si heureux qu'il fait dire qu'il se trouve dans les vignes du Seigneur. « Bon, » dit Martin Dumas en examinant le marinier, « nous pouvons le manier sans crainte. Il ne se doutera pas de ce que nous lui ferons, et il sera grandement étonné de se réveiller dans l'endroit où il se trouvera demain. » Prenant l'ivrogne par les pieds, par les épaules, Martin Dumas et Prosper le remontèrent jusqu'à la route. Non sans mal, car rien n'est lourd comme un corps d'ivrogne, ils parvinrent à le hisser dans la voiture, à l'y déposer ainsi qu'un volumineux paquet. « Maintenant, » dit Martin Dumas à son lieutenant, « vous allez le conduire à la gendarmerie de Fontainebleau, de ma part, et bien prévenir le garde. Vous, mon ami, pour ne pas recommencer, en rentrant la voiture, le travail que nous demanda la sortie, pour ne pas risquer de réveiller cette fois notre hôte, et pour que vous puissiez vous reposer, restez à Fontainebleau. Ne revenez que demain. Entendu, chef. » Quand la petite auto se fut enfoncée dans la nuit, Martin Dumas rentra à la villa. Derrière lui, il ferma les portes sans faire le moindre bruit, et encore sans que le parquet fît entendre le plus petit craquement, il regagna sa chambre, se coucha, et ne tarda pas à s'endormir d'un bon et reposant sommeil. Si son ami se couchait tôt, il se levait aussi très tôt, selon le principe qui veut que cette habitude conduise l'homme jusqu'à 100 ans et plus. Comme Martin Dumas entrait dans la salle à manger pour le petit déjeuner du matin, la femme de son hôte y pénétrait par la porte du jardin. Elle poussait des cris, remuait les bras désespérément. « Qu'y a-t-il ? » lui demanda son mari affolé. « On a cambriolé cette nuit. »« Cambriolé ? Allons donc, c'est pas possible. Nous n'avons rien entendu. On a volé, te dis-je. Chez nous ? Ici ? Ici, oui. Cambriolé ? Volé ? Quand nous avons dans la maison le roi des détectives et son meilleur lieutenant, ce n'est pas possible. Cependant, qu'est-ce qu'on a volé ? La voiture. » Cette fois, le mari s'esclaffa. « Ça, par exemple, » s'écria-t-il, « ce n'est pas possible. Va t'en rendre compte toi-même. » En deux bonds, le mari incrédule se rendit au garage. Il était vide. Cette fois, plus de doute. On avait bien cambriolé, bien volé. Emporté ce qu'il y avait de plus gros, de plus difficile à enlever. Et dans la maison pillée logeait en ce moment Martin Dumas. Vraiment, c'était un comble, comme on dit encore parfois dans de pareils moments, en face de faits qui paraissent invraisemblables. L'hôte du roi des détectives revint tout penaud, contrarié, furieux en même temps, dans la salle à manger. Il jeta sur son ami un regard abasourdi. « Elle est forte, celle-là » dit-il. Martin Dumas, lui, étendait consciencieusement du beurre sur une tranche de pain qu'il se disposait à tremper dans un bol de thé fumant. « Qu'est-ce que vous dites de cela ?» lui demanda le propriétaire de la villa. « Rien, rien. Jamais on n'a volé dans le pays, jamais on n'a cambriolé. Tout arrive, vous le voyez. Mais commencez par moi, par ma maison, quand j'ai ici mon bon ami Martin Dumas, ça me dépasse. » Cela indique que les cambrioleurs ont parfois l'esprit d'à propos et l'ironie cruelle. Qu'est-ce que nous allons faire ? Attendre. Attendre quoi ? Qu'on la rende. Rende la voiture ? L'hôte et sa femme regardèrent leur ami avec un étonnement des plus profonds. Ils se demandaient si vraiment Martin Dumas parlait sérieusement, ou s'il avait combiné une de ces plaisanteries à froid qui l'amusait souvent. Mais Martin Dumas, sachant que les plaisanteries les meilleures sont les plus courtes, en riant leur dit « Je connais le voleur, c'est moi. Vous et mon complice est Prosper. » Alors il dit à ses hôtes ce qui s'était passé. Il finissait à peine son récit que Prosper d'ailleurs revenait. Et chacun de rire de ce cambriolage. Cependant, Martin Dumas, ayant rassuré ses hôtes, ne s'attarda pas dans la maison. Il prit son attirail de peintre et se rendit à ce qu'il appelait son travail d'artiste.